Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur la radio Inzamba Gate Kakawe. C'est le moment du journal de ce mardi 9 janvier 2024. Tout d'abord les titres. Le régionalisme, c'est visiblement le mode de gouvernance au centre de santé de Maranvia, en commune Gatara, dans la province Kayanza. Selon des travailleurs de ce centre, ceux qui ne sont pas originaires de cette province sont maltraités jusqu'à être chassés sans raison. Les dirigeants, qui sont en même temps des hommes d'affaires, enfreignent la loi et sont responsables d'abus divers. C'est la conclusion d'une étude de la PARSEM qui révèle cette incompatibilité nuisible à la conduite des affaires de l'État. Et puis l'ancien député Fabien Bachiganino veut participer à la promotion des droits humains. C'est dans ce cadre qu'il vient de mettre sur pied une nouvelle organisation. Dans ce journal, vous suivrez le combat qu'il compte mener pour la libération des prisonniers toujours en détention alors qu'ils devraient être libres. À toutes, à tous. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Les travailleurs du centre de santé de Maranvia en commune Gatara dans la province Kayanza se lamentent. Ils disent que les autorités de ce centre de santé sous le contrôle de l'église pentecôtiste de Maranvia sont malveillants à l'endroit des travailleurs qui ne sont pas originaires de cette province. Ces travailleurs affirment qu'ils sont chassés sans motif valable. Ils demandent aux autorités dont le président de la République est d'intervenir pour qu'ils retrouvent leur dignité. Les détails avec Eddie Claude et Nina Azoué.
Ces travailleurs disent que les responsables du centre de santé Maranvia ne sont pas tolérants envers les travailleurs du dispensaire non natif de la province Kayanza. Ils affirment qu'ils sont chassés de leur boulot sans motif valable. Tout récemment, le titulaire de ce dispensaire a été chassé uniquement pour être de nationalité congolaise.
Le problème que nous avons est qu'il y ait un titulaire congolais. Il travaillait bien, mais parce qu'il est étranger, on l'a chassé. Nous avons un problème sérieux. Nous qui ne sommes pas natifs de cette province, nous sommes maltraités car nous sommes des étrangers dans cette province. Ici, nous avons un gestionnaire, lui aussi, parce qu'il n'est pas natif, on menace de le chasser. Je vous dis que tous les deux travaillaient bien. Il n'y avait aucun problème.
Selon eux, même les années passées, des gens ont été chassés pour la même cause. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits.
Ils ne cessent de dire qu'ils vont nous chasser et ils le mettent en application. Même l'ancien gestionnaire a été victime de ça. Ils se vantent de l'avoir fait. Il y en a d'autres qui ont été chassés des années passées dans les mêmes conditions en 2019. Certains ont même engagé des procès judiciaires. Nous demandons au président de la République d'intervenir pour que nous retrouvions notre dignité.
La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone Jacques Banigwa, représentant de l'église Pentecôte de Maranvia, qui assure le contrôle du centre de santé pour qu'il s'exprime là-dessus.
Merci Eddie Claude Nina Hazoué. On reste au nord du pays, c'est la grogne chez les consommateurs de sucre au chef-lieu de la province Muyinga. Ils dénoncent la lenteur, le favoritisme et la spéculation dans la distribution de ce produit. Ils demandent à l'administration de repenser le système de distribution pour éviter le mécontentement de la population. Les précisions dans son reportage de Bonfils Nyongé.
Ces consommateurs du sucre au chef-lieu de cette province de Muyinga disent ne pas comprendre comment ils peuvent passer des heures et des heures sur des files d'attente sans être servis. Ils accusent les commerçants de faire de la spéculation, ce qui crée un mécontentement chez les acheteurs et du favoritisme dans la distribution de ce produit. Ils déplorent même des cas de vol de téléphone ou d'argent constatés dans les bousculades sur les files d'attente. Ces consommateurs de sucre demandent à l'administration de réorganiser le système de distribution du sucre pour que tout ce qui en a besoin soit servi sans trop de peine.
Le jour de la distribution du sucre, nous passons des heures et des heures sous le soleil sur les files d'attente.
Et là, il y a trop de bousculades et nous rentrons très fatigués. Sans oublier qu'il y a même des gens qui se font voler de l'argent, des téléphones et d'autres articles à cause de ces bousculades. Vous comprenez que c'est un peu compliqué. Je demanderai à l'administration de réorganiser le système de distribution du sucre et que cette distribution se fasse au niveau des quartiers. Comme ça, ça peut éviter le favoritisme et la spéculation des commerçants.
Les consommateurs du sucre souhaitent également que la distribution du sucre se passe au niveau des quartiers. Pour eux, cela permettrait à chaque chef de quartier de s'assurer que sa population a été bien servie.
Bon fils, Niyongere, les agents de l'administration publique sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. C'est une déclaration de la parcelle en réaction au comportement de certains dirigeants qui se sont engagés dans leur propre activité génératrice de revenus en abusant de leur poste administratif. Selon Fossendi Kumana, directeur national de la PARSAM, il est impératif de redéfinir les incompatibilités pour les cadres du pays afin de prévenir l'enrichissement illicite résultant du conflit entre les intérêts particuliers et l'intérêt général.
Normalement, la gestion des incompatibilités prend origine dans la logique de vouloir renforcer la gestion de la chose publique en évitant à ce que les gens tombe dans une sorte de conflit d'intérêts. Parce que dans notre vie, il y a des citoyens, il y a des individus qui sont appelés à servir l'intérêt général. Ce sont les agents de l'administration, ce sont les mandataires publics, les cadres de l'État. Ceux-là sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Donc, les incompatibilités, c'était pour limiter ces conflits d'intérêts. Pour certaines catégories des agents publics, c'est du sacerdoce. La police, l'armée, dans le temps, on ne pouvait pas parler d'un bistrot, d'un commissaire de police. On ne pouvait pas parler d'un bistrot, d'un ministre, d'un gouverneur, d'un administrateur. C'était impensable à l'époque. Parce que comment gérer une entité administrative, comment être un bon policier, et un bon militaire. Alors qu'on est plus ancré à servir ses intérêts privés liés au commerce ou quoi. Peut-être que la situation a perdu son sens avec la crise où les gens ont été appelés à faire des initiatives pour subvenir à la situation d'une vie chère grandissante, notamment Kyungungani. Mais même actuellement, si on analyse le cadre légal actuel de lutte contre la corruption, même s'il est encore lacunaire, il y a toujours, à travers par exemple la loi anticorruption, les articles qui rappellent aux fonctionnaires de l'État qu'ils sont attrés à séparer les activités d'intérêt privé et les activités d'intérêt général. C'est notamment la déclaration des biens. Et la déclaration avant l'entrée en fonction, la limite de l'enrichissement illicite des hauts cadres de l'État, le blanchiment pour ne pas investir dans des, et avec de l'argent sale. Les marchés publics pour ne pas accorder le marché public pour assouvir ses intérêts personnels. Donc finalement on constate qu'on profite de la position dans l'administration pour servir ses intérêts privés, pour investir, pour s'enrichir de façon arrogante.
Inzamba. Parlons droits humains pour la suite de cette édition. La Commission africaine des droits de l'homme confirme que les exécutions extrajudiciaires se commettent toujours au Burundi. La Commission se base sur le cas de feu Jackson Ndikuriyo qui a été tué en août 2010. La coalition des organisations des droits de l'homme au Burundi, qui avait porté l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme, salue cette décision. Mais Carmel Niyongere, président de la CAT Burundi, une des organisations, demande au gouvernement burundais de tout faire pour mettre fin aux exécutions extrajudiciaires qui sont commises au Burundi par des agents de l'État.
Nous saluons la décision de la Commission africaine des droits de l'homme du peuple condamnant à nouveau le Burundi pour une affaire d'exécution extrajudiciaire de feu Jackson Ndikuriyo, victime d'une exécution extrajudiciaire le 26 août 2010. Ce dossier a été soumis de manière conjointe en mai 2014 avec les organisations ACAT Burundi, APRODH, FOCOD, FORSC, ainsi que les organisations internationales Human Rights Watch et TRIAR International. La Commission africaine des droits de l'homme des peuples reconnaît le caractère extrajudiciaire de la mort de M. Ndikuriyo et demande au Burundi de mettre en place des mécanismes pour lutter contre l'impunité généralisée en matière d'exécution extrajudiciaire. La Commission africaine demande à l'État du Burundi de mener une enquête approfondie sur l'exécution de la victime ainsi que d'accorder aux ayants droit une réparation adéquate et suffisante. Nous appelons aux autorités burundaises à mettre en œuvre les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme du peuple qui leur sont adressées. Il est primordial que le Burundi s'engage promptement dans un processus de justice crédible et durable pour que les responsables des crimes graves soient poursuivis et les victimes puissent obtenir une réparation.
Les détenus qui ont déjà purgé leur peine et les détenus blanchis par la justice devront être libérés comme le stipule la loi burundaise. C'est l'un des objectifs que se fixe une nouvelle organisation des droits de l'homme au Burundi. Fabien Vachidianino, le président de la formation pour le développement et la promotion des droits humains, indique que celle-ci va travailler étroitement avec les responsables des prisons pour connaître le nombre de détenus qui sont dans de telles situations pour demander leur libération. Écoutez-le.
Le problème se trouve au niveau des procureurs et des parquets. Il est incompréhensible de voir quelqu'un qui a purgé sa peine et qui reste en prison, voir quelqu'un qui a été blanchi et qui est toujours en prison, ou même une personne qui a reçu une grâce présidentielle, alors que le président et le magistrat suprême qui d'autres peuvent empêcher la mise en application de sa décision. C'est pourquoi nous allons travailler avec les responsables des prisons pour connaître le nombre des détenus qui sont emprisonnés en violation de la loi. Nous allons dresser une liste des détenus pour dénoncer l'injustice des parquets. Nous savons bien qu'il y a d'autres individus qui agissent dans l'ombre et qui donnent des injonctions aux procureurs pour interdire la libération des détenus. Et certains procureurs exécutent ces ordres aveuglément. Nous allons dénoncer les compétences d'un procureur qui doit prendre une décision et ce procureur va nous dire celui qui passe outre la loi. C'est notre objectif.
Éducation pour terminer, l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pauvreté dans les ménages. C'est la meilleure manière de lutter contre les abandons scolaires. C'est un clin d'œil de Lali Nivizi. C'est après l'annonce de plus de 3500 abandons dans la commune Kayanza pour le seul premier trimestre de cette année. Cet activiste engagé sur les questions de l'éducation au Burundi indique que seule la bonne gouvernance permettra de pourvoir aux citoyens les moyens pour se nourrir et nourrir leurs familles.
La sensibilisation des parents pour diminuer les abandons scolaires ne suffit pas. Pour minimiser les effectifs de l'abandon scolaire, il faut une approche holistique. Il faut, d'une part, faire une analyse approfondie en collaboration avec les parents. L'administration scolaire peut les appuyer. Et là, je conseille que l'administration scolaire puisse encadrer l'évaluation des causes de ces abandons scolaires, parce que la plupart, ce sont des causes liées à la pauvreté, et qu'ils cherchent une solution appropriée à cette pauvreté. Cette solution relève du très haut niveau de décision, car c'est une question liée à l'organisation de l'économie polonaise, qui est liée à la production, qui est liée aussi à la distribution des revenus dans les ménages. Alors j'interpelle l'État polonais à revoir le train de vie des hautes autorités, le train de vie des agents des institutions et de réduire les dépenses inutiles dans les manifestations, les cérémonies. Et les dépenses à la tête de l'État, de les réduire, mais aussi de voir comment ils organisent les questions liées à la production, la question des semences, la question des intrants agricoles, afin que, au niveau local, la population puisse avoir de quoi manger, de quoi nourrir les enfants, mais aussi de quoi acheter le nécessaire et ce qui est demandé à l'école. Le deuxième problème est souvent le harcèlement des filles. Les filles qui abandonnent l'école suite au harcèlement, aux grossesses non désirées, ils doivent chercher une solution à l'école en cherchant des mécanismes locaux de protection des filles et de solidarité avec les comités de gestion de l'école afin que ces enfants-là soient protégés et qu'ils puissent continuer leurs études. Il y a aussi des questions liées à la qualité de l'éducation. Souvent, un parent décident de retirer l'enfant de l'école parce qu'ils voient qu'à l'école, ils ne gagnent rien. Les infrastructures ne sont pas du tout accueillantes. Il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'enseignants. Alors, quand il n'y a pas d'éducation de qualité, que l'enfant rentre sans pouvoir lire ni écrire, souvent le parent dit, eh bien, ici, à la maison, il peut être plus productif qu'à l'école.
Et la ligne Midi qui suit de près les questions d'éducation au Burundi. Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.